Bonsoir. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans voir, n'est-ce pas? Donc nous croyons sans voir. Et l'apôtre Pierre nous dit que nous l'aimons sans quoi? Sans le voir. Donc notre relation à Jésus-Christ est une relation, nous l'aimons, nous croyons en lui sans le voir encore. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un portrait de lui. Et Apocalypse, où je vous invite à trouver, chapitre 1, nous est vraiment le passage dans toute la Bible qui nous dresse le portrait de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je crois qu'il vaut la peine de s'attarder sur chacun de ces détails de ce portrait que nous avons de Jésus-Christ. C'est pas un portrait purement physique, c'est un portrait de son caractère, de son être, tel qu'il est actuellement après sa résurrection, après son ascension, après sa glorification. Et dans cette vision que Jean a de son Sauveur, lorsqu'il le voit, il nous dit que, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors rappelons-nous que le message central qui nous est donné dans ce livre se trouve dans la première phrase du livre. C'est une quoi? Une révélation de Jésus-Christ, la part de Christ et qui a pour sujet aussi Jésus-Christ. Et nous voyons Christ dans la manière qu'il se révèle dans sa parole. Et Jean est là et il entend une voix. Et donc verset 12, il se retourne pour regarder la voix qui lui parlait. Et on avait parlé de trois parties de cette vision. D'abord la gloire de sa présence, parce qu'il se trouve où? Il se trouve au milieu de ces églises, vous rappelez? Au milieu de ces chandeliers qui représentent les églises. Et puis la gloire de sa position. Il est dans des vêtements glorieux du souverain sacrificateur et aussi d'un roi. Et puis la gloire de sa personne. Donc il y a sa présence, sa position et sa personne. Et en considérant sa personne, nous avons vu ses cheveux blancs, qui parle de sa sagesse sans pareil, ses yeux comme une flamme de feu, qui parle de son omniscience pure, et puis la semaine dernière, ses pieds comme de l'airain ardent, qui parle de sa suprématie irrésistible, que Jésus a sur ses amis, sur ses ennemis, et même sur les anges. Et ce soir, nous allons méditer sur la deuxième partie du verset 15, sa voix, qui était comme le bruit, littéralement voix, il y a deux fois le mot voix ici. Sa voix était comme la voix de grandes eaux. Alors, on peut savoir pas mal de choses concernant une personne en écoutant sa voix. On peut téléphoner, quelqu'un dit « allô » et avec le simple « allô », on peut deviner si c'est un enfant, si c'est une femme, si c'est un homme, si la personne est très âgée, moins âgée, en bonne santé, malade. On peut savoir quelque chose quand quelqu'un parle de ses émotions, la joie, la tristesse, la colère, etc. On peut deviner si la personne est sans état d'âme ou plein de doutes, excitée, énervée, remplie de crainte, etc. Et donc, en décrivant la voix d'une personne, on décrive la personne elle-même. Et c'est certainement le cas ici. Et pour ce faire, Jean se sert d'une figure de style que nous appelons quoi ? Quelle figure de style est-ce qu'il utilise ici ? C'est une comparaison, n'est-ce pas ? Comparaison, c'est-à-dire une mise en relation d'un objet ou d'un concept ou d'une qualité qu'on appelle le comparé avec un autre élément qu'on appelle le comparant au moyen d'un terme introduisant l'analogie, comme ici. Donc sa voix, ça c'est le comparé, est mise en relation avec quoi ? Voilà, le bruit ou la voix de grandes eaux, qui est le comparant, au moyen de ce terme « comme ». Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors, j'ai trouvé dans mes recherches que le poète français Paul Éluard, c'est comme ça qu'on dit son nom ? On dit le D ? Non, on ne dit pas le D. Qui est né à Saint-Denis d'ailleurs, hein, nous a donné la célèbre comparaison surréaliste « La terre est bleue comme une orange ». Voilà. Alors, je pense que la comparaison que Jean nous donne sera plus facile à analyser que la terre est bleue comme une orange. Mais pour nous aider, la comparaison revient en fait encore à deux reprises en Apocalypse. Et nous allons voir la dernière. C'est en Apocalypse 19, si vous voulez bien la trouver. C'est aussi, je crois, au chapitre 14, mais regardez au chapitre 19. Et les versets 5 et 6, et on cherche cette même comparaison d'une voix comme le bruit de grandes eaux. Et là, il entend, verset 5, une voix qui sort du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez petits et grands. » Et verset 6, en obéissance donc à ce commandement, « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. » Comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Voilà, il y a deux comparaisons ici. Il y a le bruit que font de grosses eaux et ce que donnent des coups de tonnerre. Alors gardez un peu dans vos esprits ce lien que Jean fait entre ces deux bruits, le bruit de grandes eaux et le bruit de tonnerre. Mais ensemble, ces bruits suggèrent quoi par rapport au bruit que faisait cette foule nombreuse ? Ça suggère quoi ? Quand il dit le bruit que faisait cette foule était comme le bruit de grandes eaux, ça suggère quoi par rapport à ce bruit ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ok, c'est puissant. Très bien. D'autres mots ? Nombreux. Très bien. D'autres mots ? Pardon ? Pas compréhensible ? Oui, sauf qu'on sait ce qu'ils disent. Hein. Ils ont bien. Je crois que c'est compréhensible dans ce sens. Mais immense, en tout cas. Et fort aussi, je crois. Fort, ça doit être impressionnant d'entendre ce qu'ils disent. Et je crois que, pour revenir à notre texte, nous voyons que les traductions tentent souvent de capter cet adit d'un bruit impressionnant. Je vais vous lire ce que donne la Bible en français courant. Sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Et donc c'est un peu une interprétation, mais c'est ce qu'elle donne comme traduction. Ou la parole vivante. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Parole de vie, sa voix était aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Voilà, c'est de façon dont ça dit comme de grandes eaux littéralement, mais qu'est-ce que cela veut dire? Retentissant comme celle d'une multitude de cascades, nous donne une traduction. Donc, nous allons considérer sa voix, je vais l'appeler sa voix retentissante. Et trois choses que je veux noter ici. Et d'abord, c'est une voix retentissante et je vais donner comme mot d'application le mot écouter. Une voix retentissante, écouter. Alors, une chose est claire, quand cette voix parle, elle est immédiatement au centre de l'attention. C'est un peu ce que Jean essaie de décrire. Il suffit qu'elle s'exprime et elle se trouve sur le devant de la scène, sous les feux de la rampe, si vous voulez. Et en Apocalypse 19, Jean a entendu la voix d'une foule nombreuse qui retentissait comme un bruit de grosses eaux, mais ici c'est la voix d'un seul individu qui commande autant d'attention et de respect que cette grande foule qu'il dit que personne ne peut en fait compter. Il y a toute cette foule et la voix d'une seule personne et sa voix commande autant d'attention. C'est cette voix qui lui a sommé de faire attention tout au début. Vous rappelez la première sensation qu'il a eue était quoi? Il a entendu une voix. Et il dit au verset 10, si vous regardez le chapitre 1, il dit qu'il était dans l'esprit le jour du Seigneur quand j'entendis derrière moi une voix forte. Ici, il compare à quoi? Comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le. » Alors, il avait peut-être bien des choses qui lui occupaient l'esprit, mais je vous assure que quand il entend cette voix, il ne pense plus qu'à une seule chose. Regardez le verset 12. « Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. » Il oublie toute autre chose. Ça qui commande toute son attention. C'est une voix qui exige l'attention de Jean. Tout comme, vous voyez, il y a parfois des panneaux qui disent « Attention, un train peut cacher un autre. » Vous savez qu'un bruit aussi peut cacher un autre. Voilà, comme ça. Vous avez plusieurs bruits d'une intensité similaire qui résonnent en même temps. On appelle ça une cacophonie. Okay. Cacophonie, c'est un mélange de bruits, de sons discordants qui produisent un effet désagréable à l'oreille. Alors pensez à la cour de récréation dans une école primaire. Hein, si vous êtes près de la cour, vous entendez, c'est que du bruit ici, là. Mais quand vous avez un seul très grand bruit qui résonne, qui est beaucoup plus fort que tous les autres, il ne s'ajoute pas à la cacophonie, en fait, il couvre et il noie les autres bruits. On n'entend plus les autres bruits, parce que ce bruit-là est tellement fort. Vous pouvez vous mettre près d'une grosse cascade d'eau, si vous avez été avant, vous avez visité. Le bruit est tellement immense qu'on ne peut pas s'entendre parler. On n'entend pas les autres, ça cache, ça noie les autres bruits. Et Jean est... à ce sentiment quand Jésus parle. Vous savez, avant cela, Jean est parti un jour avec son frère Jacques, Pierre et Jésus sur une haute montagne. Et là, il a vu pour la première fois la gloire de Jésus resplendissante. Et Matthieu 17, verset 5, nous dit que comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quoi? « Écoutez-le. » Donc voici l'application. « Écoutez-le. » Cette voix exige votre attention. Quand cette voix parle, prêtez attention. Ce n'est pas une voix à ignorer. Et je suis sûr que c'est l'application à tirer. Parce que cette voix va parler à chacune des sept églises. C'est cette voix qui va parler. Et notez l'application. Regardez dans vos Bibles, Apocalypse chapitre 1, verset 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles, quoi? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez le verset 11. Que celui qui a des oreilles, quoi? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 17. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez le dernier verset du chapitre. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez le verset 6 du chapitre suivant. Que celui qui a des oreilles, quoi? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 13. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez le dernier verset du chapitre, la dernière parole adressée à ces églises, verset 22, que celui qui a des oreilles, quoi, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous saisi l'application? Elle est claire, je crois. Voici une voix qui exige notre attention. Écoutons-la. C'est une voix retentissante, donc écoutez. Mais il y a une deuxième chose. Alors, nous avons vu que presque toutes les images que Jean utilise viennent d'où? Est-ce qu'il les prend de la nature? Où est-ce qu'il prend ces images? Par rapport à ses pieds, par exemple, on a vu, ou ses yeux et ses cheveux. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de... Oui, mais où est-ce qu'il a puisé ses... Qu'est-ce que tu dis, pardon? Oui, de l'homme, mais ce que je cherche, c'est... Voilà, des écritures de l'Ancien Testament. Hein, c'est ça où il va puiser ces images. Et donc, presque chacune de ces images, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Et c'est pareil avec celle-ci. Je veux que vous trouviez Ézéchiel chapitre 10. Okay. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Voilà, Ézéchiel, c'est pour vous aider. Hein. Ézéchiel chapitre 10. Et ici, le prophète va voir une vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple. Et donc, c'était un jour triste. Hein. Mais quand Dieu part, il ne part pas doucement par la porte arrière. C'est en fait impressionnant à voir. Et parmi les choses que voit Ézéchiel sont les anges de Dieu. Ézéchiel 10, verset 5, parle de ces anges, les chérubins, et dit que les ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Alors, la voix de Dieu est le comparant ici, pas le comparé, donc c'est, il ne dit pas plus par rapport à sa voix, mais c'est quand même une voix reconnaissable, une voix forte apparemment, parce qu'il dit que le bruit que faisait les ailes de ces anges étaient grosses comme la voix de Dieu lorsqu'il parle. Regardez verset 18, Ézéchiel 10, 18. La gloire de l'Éternel se retira du ou quitta le seuil de la maison. C'est la gloire de Dieu qui quitte ce temple. Et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de la terre sous mes yeux quand ils, quoi, partirent. Donc la gloire de Dieu quitte le temple. C'est un jour triste. Alors trouvez maintenant le chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Si vous avez une copie de la Bible qui a des en-têtes ou des titres au chapitre, vous allez peut-être voir comme titre à ce chapitre « La gloire de l'Éternel remplit le temple » ou « Le Seigneur vient dans son temple ». Et effectivement, Ézéchiel avait vu la gloire de l'Éternel quitter le temple. Et maintenant, regardez le verset 4. Ézéchiel 43, verset 4. La gloire de l'Éternel, quoi? Entra dans la maison. Il va voir une vision prophétique d'un jour où la gloire de l'Éternel va, en fait, revenir. Là, c'est un message plein d'espoir. Maintenant, lisons à partir du verset 1. Ézéchiel 43, verset 1. Il me conduisit à la porte... à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, et sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. C'est la voix de qui? Du Dieu d'Israël. Et sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Je vous relis Apocalypse 1, 15. Sa voix, parlant de Jésus, était comme le bruit de grandes eaux. Ici, nous lisons, et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, c'est la voix de qui, ici en Ézéchiel 43? C'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Et Jean va entendre exactement la même voix, décrit exactement de la même manière par l'Esprit Saint. C'est une voix retentissante, écoutée, mais c'est une voix quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire deuxièmement? C'est une voix divine.
Majestueuse.
Oui, majestueuse, mais divine, parce que c'est la voix de Dieu. Donc j'ai mis comme application adorée. C'est une voix divine, adorée. Je veux vous montrer une autre comparaison. C'est en Matthieu 17. Nous sommes sur le mont de Transfiguration. Et le Père parle, hein, je vous ai lu déjà ce qu'il a dit. Et la voix du Père n'est pas décrite. Donc on ne sait pas exactement comment elle était. Ceci dit, c'est intéressant que, ne cherchez pas, mais en Jean 12, 28, à quelques jours, juste avant sa crucifixion, le Père parle encore à son Fils. La Bible nous dit là-bas que une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et le verset 29 nous dit que la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Ouais, un coup de tonnerre. Et vous rappelez peut-être que Jean lui-même fait un lien en Apocalypse 19, donc Jean qui écrit l'évangile et aussi Apocalypse, entre le bruit des coups de tonnerre et le bruit de grandes eaux. Il décrit la même chose avec ces deux images. Et cette foule avait entendu quelque chose, mais de loin, rien de distinct, ils la comprennent pas, ils disent, oh, c'est un coup de tonnerre. Mais notez la réaction des hommes qui l'ont entendu, qui ont entendu la voix de Dieu sur le mont, la voix claire et distincte de Dieu, ils ont compris ce que Dieu a dit. Et Matthieu 17, verset 6 dit que lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Donc, la voix n'est pas décrite, mais leur réaction à la voix est décrite. Forcément, elle était impressionnante. Et le verset après dit, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et je vous lis maintenant Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, disant, ne crains point. Nous voyons que la réaction est presque pareille, hein, aussi que la réponse gracieuse de Jésus qui vient pour dire, n'ayez pas peur. Jésus avait dit à ses disciples, celui qui m'a vu a quoi? A vu le Père. Mais il aurait pu aussi dire, celui qui m'a entendu a entendu le Père. Parce qu'il parle au pluriel avec la même voix. En fait, Dieu le Père nous parle par son Fils. Hébreux 1, 1 et 2 dit que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé, comment? Par le Fils. C'est-à-dire, quand le Fils parle, c'est le Père qui parle. Il nous parle par le Fils. Donc quand le Fils parle, c'est le Père qui parle par le Fils. C'est la même voix. Qui parle, c'est une voix divine, adorée. Plus tard dans l'Apocalypse, Jean nous raconte qu'il était tellement impressionné par un ange, qu'il est tombé à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange tout à fait, tout de suite, l'a corrigé, il a refusé catégoriquement l'offre d'adoration de la part d'un humain. Les anges ont toujours refusé l'adoration de la part des humains, mais Jésus de Nazareth l'accepte. Quand il parle, c'est une voix divine. Donc, on avait dit une voix retentissante, écoutée, une voix divine, adorée. Et il y a une dernière vérité que je crois est communiquée par cette image, dans la façon qu'elle est utilisée dans l'Ancien Testament. Trouvez avec moi le psaume 93. Le psaume 93. Et cherchez cette image, ok, une voix comme le bruit de grandes eaux, et cherchez ce qu'elle communique dans ce psaume. Parce que l'Esprit connaît ce psaume, bien sûr, mais Jean aussi connaît ce psaume. Et donc, quand il va décrire la voix de Christ, il a dans sa tête ces psaumes qui parlent de cette voix. Il dit, le psaume 93, que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Et regardez la poésie qui est très belle ici, au verset 3. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est quoi? Puissant dans les lieux célestes. Ces témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison éternelle pour toute la durée des temps. Alors, qu'est-ce qui est souligné par ces grandes eaux? C'est leur quoi? C'est leur puissance. Et plus que la voix de ces grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante. C'est une voix, donc, troisièmement, puissante. Et je donne comme application le mot capituler. C'est une voix puissante. Vous savez, en ouvrant la Bible, la première chose que Dieu fait, c'est de quoi? De parler. Il parle. Et quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Tout l'univers est créé. Tout l'univers est créé par sa simple parole. Les puissantes eaux parlent de la puissance même, je crois, même plus que le bruit. C'est une voix comme de puissantes eaux, une voix qui est puissante, c'est ça l'idée. Écoutez ce que lit le psaume 29, vous l'avez peut-être lu déjà. « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait grande la tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. » La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres même du Liban. Vous savez combien de temps ça prend pour des hommes pour couper un arbre? C'est des arbres immenses. Ça prend des heures et des heures et des heures pour couper, tailler, scier, etc. Et avec sa voix, Dieu peut les casser. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert, etc. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, etc. Dans son palais, tous écrient quoi? Gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Donc Dieu règne avec ça. Voix. Il dit et les choses se passent. Il crée avec sa voix, il détruit aussi avec sa voix. Le psaume 90, verset 3 dit « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, nous mourons parce que la voix de l'Éternel nous a maudits. » Il appelle au salut aussi avec une voix efficace. Non pas une voix physique, mais réelle et spirituelle. Et peut-être on peut, ce serait le dernier passage, mais 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, nous voyons ce mot avec la racine appelée plusieurs fois. Ça commence au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul appelé, c'est le verbe kletos. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sosthène. Donc, Paul est appelé. Appelé par qui? Mais il écrit à l'église. Il est kletos et il écrit à l'ecclésia. C'est un autre mot, mais qui a exactement la même racine. Ceux qui sont appelés. Et c'est donc l'Église ou ceux qui sont appelés en dehors de, mais l'Église de Dieu qui est à Corinthe. à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Ou si vous avez notre traduction, vous avez « ou appelé à faire partie du peuple saint ». Parce que c'est en fait le mot « appelé » encore. Comme il a dit de lui-même au verset 1, le même mot utilisé par Paul. « Vous êtes aussi appelés ». Appelés par qui ? Regardez verset 23. 1 Corinthiens 1:23. Nous nous prêchons Christ, crucifié, c'est scandale pour les juifs, c'est une folie pour les païens, mais c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont quoi ? Appelés, tant juifs que grecs. Regardez le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été quoi ? Appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il y a cet appel efficace, en fait, de Dieu, qui nous appelle hors du monde pour entrer dans son royaume. Pierre le décrit, c'est chapitre 2 de sa première lettre, versets 8 à 10. Il parle des noms, des inconvertis. Il dit, ils s'y hurlent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc c'est leur responsabilité. Ils n'ont pas cru. Mais vous, au contraire, voici le contraste. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant est le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est encore la voix du Christ par son esprit. Là, c'est pas la voix physique, mais c'est la voix réelle par son esprit qui apporte le salut, qui applique le salut à l'être, à l'individu. Et c'est une voix qui va ressusciter même les morts. Jésus, en parlant, il a dit, en vérité, je vous le dis, c'est au chapitre 5 de Jean, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est la voix de Jésus, donc. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et puis il dit plus tard, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Un jour, Jésus va venir. Et au lieu de crier « Lazare !» Il va pas mettre le nom, il va juste dire « Venez !» Et tous les morts entendront sa voix. Ça, c'est la puissance de sa voix qui va ressusciter tous les morts. C'est une voix puissante. À nous donc de ne pas résister, mais de capituler devant sa voix. Ce que fait Jean, il tombe par terre. Il réalise, on ne peut pas lutter contre la voix de Dieu. Alors je vous termine en vous laissant ce verset. Hébreux 3 qui cite les psaumes, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez, adorez, capitulez devant la voix du Christ. Prions.